invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hong.
Plusieurs cas de spoliation des terrains et immeubles de l'État signalés à travers le pays. Le dernier cas en date est celui du terrain de l'hôpital général de Kitambo à Kinshasa. En même temps, au sud Kivu, le processus de récupération des immeubles de l'État est en cours. Comment expliquer cette situation? Pour en parler, nous recevons comme invité Laurent Simon Ikenge, cadre du MSR, parti de la majorité présidentielle, et ministre honoraire de l'urbanisme et habitat. Monsieur Ikenge, bonsoir.
Bonsoir.
Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS. Il était en 2010 auteur d'une question orale sur la vente des immeubles de la Banque centrale du Congo. Honorable Okundji, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Guilain Maléré, juriste. Bonsoir, Maître Maléré.
Bonsoir, Alain. Bonsoir à tous les auditeurs.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions qui sont très nombreuses, comme d'habitude. Nkalaba Tamate de Lubumbashi au Katanga. La spoliation des terrains et maisons de l'État se fait avec la bénédiction des autorités du pays. Donc, la tolérance zéro ne paraît qu'un slogan. Yves Massémo de Goma en Nord-Kivu, les acquéreurs de ces terrains sont victimes de l'injustice et de l'intolérance des Koulouna en cravate. Question, qui sont à la base de la spoliation des terrains et immeubles de l'État? Qui octroie les documents de ces terrains? Et quelles sanctions pour les coupables, c'est-à-dire les personnes qui vendent ces terrains et immeubles? Nous sommes jeudi 26 avril 2012. Bonsoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Spoliation du terrain de l'hôpital général de Kitambo, ici à Kinshasa. Le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, s'ingère dans le dossier. À la suite d'une descente qu'il a effectuée hier pour s'enquérir de la situation, le ministre s'est vu refuser l'accès au site par les éléments de la police trouvés sur ce terrain. Ces derniers ont même arrêté un des journalistes qui accompagnait la délégation du ministre. Récit des faits avec vous, Dakota Mbikila.
La délégation du ministre de la Justice était venue constater l'ampleur de ce qu'il faut désormais qualifier d'occupation illégale du site de l'hôpital général de Kitambo. Jusqu'à l'heure où nous sommes arrivés, le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, n'a pas pu descendre de sa jeep. Pour cause, les éléments de la police trouvés dans ces lieux lui ont refusé l'accès au site. Ils disent répondre aux ordres d'une autre autorité, ce qui provoque alors la colère des centaines de gens trouvés dans ces lieux.
S'il persiste à refuser l'accès au ministre, nous allons nous-mêmes le faire entrer de force. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Nous voulons que les bulldozers viennent démolir définitivement ces maisons.
Témoin de cet incident, le médecin directeur général de l'hôpital de Kitambo, André Pombolité, n'a pas été en mesure de nous révéler ni l'identité du spoliateur du site, ni celle de l'autorité de qui dépendent les éléments de la police présents dans ces sites. André Pombolité considère néanmoins l'arrivée du ministre comme une lueur d'espoir pour son hôpital.
Bien, nous espérons qu'avec l'arrivée de son excellence de la justice, ça va aboutir à une solution satisfaisante.
C'est après des tractations qui ont duré plusieurs heures que le ministre de la Justice a pu accéder au site. Luzolo Bambi promet des actions en justice car, selon lui, la tolérance zéro est toujours d'application. Le procureur général de la République, qui a rejoint le ministre quelques heures plus tard, s'est déjà saisi de l'affaire.
Merci Dakota Mbikila. Dans le même cadre, suivons à présent ce témoignage qui nous vient de Kinshasa.
Je suis le professeur Yokalier, je suis le directeur général de l'Institut National des Arts de Kinshasa. Je voudrais faire un témoignage qui est pathétique. Vous savez que en 1987, l'Institut National des Arts, qui se situait sur le site actuel du stade Kamanyola, a été évacué pour le stade et a été mis sous abri de l'actuel site qui est un ex-hôtel, une ex-ambassade, l'ambassade de Chine, sur 1 avenue du commerce. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, cet immeuble qui a été cédé officiellement à l'époque par le gouvernement de la Deuxième République, lettre à l'appui, arrêté à l'appui, décision à l'appui, eh bien, depuis 20 ans, des privés se sont présentés pour dire que voilà, c'est leur immeuble, il faut que l'INA quitte. Donc, il faut que 2500 étudiants qui sont à l'intérieur de cet bâtiment soient dans la rue pour que des privés prennent le bâtiment. bâtiment. Je trouve ça inqualifiable. Je crois que l'éducation nationale a besoin de plus de respect que ça. Récemment, on nous a octroyé un terrain sur le site de l'UTT Montbélé, mais là aussi, il y a des vautours privés qui s'accaparent des terrains, soi-disant qu'il leur a été accordé, je ne sais par qui. Je voudrais plaider pour que véritablement nous ayons un campus digne de ce nom. Que à chaque fois qu'il y a un changement, qu'on ne vienne pas nous menacer comme si nous étions de vulgaires malfrats.
Le professeur André Yokalié était au téléphone de Kéline Kouté. Laurent Simon Ikengue, je rappelle que vous êtes cadre du MSR, parti politique de la majorité présidentielle et ministre honoraire de l'urbanisme et habitat. Comment vous expliquez cette situation?
Merci de la question. J'aimerais d'abord exprimer toute ma compassion envers son Excellence Monsieur le ministre de la Justice et ici regretter que comment un ministre en fonction qui veut aller visiter un site et il y a les éléments de la police qui dépendent de notre gouvernement doivent lui refuser l'accès. Vraiment, nous sommes dans quel état? Je crois que tout cela parce qu'il y a justement impunité. La question des spoliations, je crois que c'est une vieille question. Une vieille question qui date depuis l'époque de Mobutu. Il vous souviendra, vers les années 70-71, le président Mobutu avait pris la mesure avec son bureau politique à l'époque de la zaïrianisation des biens. Et ici, il était né une classe d'acquéreurs. Et ça, comme l'appétit vient en mangeant, la République a continué pendant toute la durée du règne de Mobutu à donner des maisons gratuitement aux personnes à titre onéreux ou gratuit. Et aujourd'hui, il y a même encore, après Mobutu, la Conférence nationale souveraine avait toute une commission chargée de biens mal acquis. Malheureusement, depuis l'époque de Mobutu, on n'a pas voulu que les conclusions de cette commission soient rendues publiques et la Conférence nationale avait été expédiée. J'étais moi-même membre de cette conférence. Après Mobutu arrive Mouzé. Mouzé arrive et crée l'OBEMA, l'Office de biens mal acquis. Et cet office a connu le sort que vous connaissez. Après l'OBEMA, à l'avènement du gouvernement Gizenga, le chef de l'État, à ce moment j'étais ministre de l'urbanisme et habitat, m'a instruit pour que nous puissions établir l'inventaire de tous les immeubles, terrains qui appartiennent à l'État. Et à ce moment, il nous a instruit, le Premier ministre, le ministre d'État aux infrastructures, travaux publics, le ministre des Affaires foncières et moi-même qui avait la charge de l'urbanisme et habitat, de créer une commission. C'est comme ça qu'on va créer la commission CRIT, qui dépendait du Premier ministre. Et la commission CRIT, qui signifie commission chargée de la récupération des immeubles et terrains de l'État. Cette commission a commencé à faire un travail. Et dès lors que le président de la République m'avait instruit pour établir l'inventaire, j'ai écrit une lettre à tous les chefs de division de l'urbanisme et habitat de 11 provinces pour qu'ils puissent me transmettre dans le meilleur délai les rapports de tous les immeubles et terrains de l'État. Mais à l'époque, il n'y a eu que 2 provinces où l'État garde encore un certain patrimoine. C'est la province de l'Équateur et la province orientale. Mais le reste des provinces, l'État n'a plus de maisons, presque plus de maisons. Et parmi les provinces les plus affectées par la spoliation et le détournement des maisons, se trouve être justement la province du Sud Kivu et aussi la province du Kasai Occidental, Kananga, et Lubumbashi dans le Katanga, et même certaines autres villes du Katanga. Donc, il n'y a que dans des provinces où l'État peut encore compter sur quelques maison.
Mais Laurent Simon Ikenge, à quoi vous attribuez cette situation? Est-ce que c'est l'État qui est en train de voler l'État ou ce sont les privés qui volent l'État? Comment vous expliquez ça?
Je tiens à faire remarquer ici que le petit peuple n'est pas concerné par la spoliation. Il s'agit toujours des dinosaures, c'est-à-dire les anciens ministres, députés, ou commissaires d'État, des sénateurs, et surtout nos amis qui servent l'État sous les drapeaux. Donc les généraux, les colonels, tant de la police que de l'armée. Donc c'est parmi ces gens-là. Et à côté d'eux, il y a aussi les familles de certaines autorités, surtout pendant la Deuxième République. Parce qu'on pouvait spolier une maison pour confier à une maîtresse. Excusez-moi, nous sommes en direct à la radio. Une concubine, on lui donne une maison, et même à son frère, on peut donner tout un immeuble. Et après ça, il y a aussi un autre phénomène. C'est que il y a des réseaux mafieux qui circulent avec des titres, plutôt de lettres d'attribution des maisons et signées par le feu Moulumbalu Koji. Alors, à l'époque, vers les années 84, il était ministre de portefeuille. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un qui a acheté la maison vers les années 84-85, il vient la revendiquer à 2011, 2010, 2012. Donc ce sont des réseaux mafieux. Mais il y a espoir, parce que quand j'étais ministre, le 23 novembre, ce fut un mercredi, répondant à une question orale avec débat à l'Assemblée nationale, quand j'ai expliqué la situation, toute l'Assemblée nationale, à l'unanimité, avait voté une motion pour soutenir le ministre de l'Urbanisme et Habitat dans la lutte pour récupérer toutes les maisons.
Laurent Simon Ikenge.
Oui.
Souffrez que je vous arrête à ce niveau, le temps de donner la parole à l'honorable Okundji, et je vous retrouve dans le second tour de table. Honorable Emery Okundji, vous êtes député national de l'opposition, cadre du parti politique FONUS. En 2010, vous étiez auteur d'une question orale sur la vente des immeubles de la Banque Centrale du Congo. Vous avez suivi le premier reportage sur le terrain de l'hôpital général de Kitambo ici à Kinshasa, ainsi que le témoignage du professeur Yuka, également Laurent Simon Ikenge, ministre honoraire de l'urbanisme et habitat. Comment vous expliquez cette situation?
Je vous remercie pour la question. Ce qui est arrivé au ministre de la Justice prouve à suffisance les dysfonctionnements qui caractérisent la gestion des affaires de l'État. Le ministre Luzolo n'est pas le premier à subir un traitement pareil. Ce qui est beaucoup plus grave pour le ministre Luzolo, c'est que cela est fait par les policiers.
Et il faut signaler que le ministre Luzolo assure l'intérim du ministre de la Défense.
Effectivement. Mais rappelez-vous que cela est arrivé aussi au ministre de l'Information de l'époque. Par un expatrié, excusez-moi les termes, lorsqu'il s'agissait du terrain de l'ACP, juste derrière ici. Il y a cet expatrié s'est permis de toucher même le ministre de l'information de l'époque. Cela a indigné tous les honorables députés et nous avions demandé que cet expatrié soit expulsé de la République démocratique du Congo. Cela a été fait, quelques jours après, il est revenu. Heureusement qu'aujourd'hui, on me dira, d'après toutes les informations, qu'il n'est plus ici, on l'a encore expulsé de nouveau. Donc cela prouve même la faiblesse, le dysfonctionnement qui caractérise la République démocratique du Congo. Vous savez, Alain, le patrimoine de l'État congolais ne fait que se dégrader de jour le jour. Et moi, j'ai toujours dit à l'opinion publique que le patrimoine public, En d'autres termes, le patrimoine de l'État est inaliénable et imprescriptible. Donc, ceux qui s'amusent à acheter ces biens aujourd'hui à vil prix ou parce que pour des raisons, des relations qu'ils ont ou des avoirs qu'ils ont, tôt ou tard verront l'État propriétaire récupérer ces biens. Donc, ces acquéreurs illégaux, que moi je qualifie d'acquéreurs illégaux, sont aujourd'hui qualifiés comme des simples usufruitiers.
Mais, honorable Okundji, lorsqu'il s'agit de l'État qui vend lui-même et puis qui vient récupérer après, et puis vous avez suivi, le ministre honoraire Laurent Simon Ikenge a cité les dinosaures, les puissants, hein, ce sont des policiers qui refusent l'accès au ministre, c'est qu'ils ont des parapluies plus forts, et parmi les dinosaures, il va citer les députés, les ministres, ainsi de suite.
Effectivement, il faudrait d'abord fixer l'opinion lorsque le ministre parle de la zaïrianisation des biens sous Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Mobutu n'a fait qu'exproprier les expatriés pour les donner, soit les vendre à vil prix aux Congolais. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les biens de l'État qui sont vendus à des vil prix. D'abord, qui sont présentés comme étant des biens sans maître ou des biens qui sont sous-évalués et des biens dont le délabrement est très avancé et en sous-évaluant ces biens, ils les vendent à vil prix. Mais qui sont les preneurs? Effectivement, le ministre a raison lorsqu'il dit que c'est les ministres en fonction, les députés, les ADG, les administrateurs directeurs généraux, les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires, les militaires, les officiers militaires, les officiers de la police nationale, c'est là qui achète, le gouverneur de province, sans oublier aussi, qui achète les biens de l'État à vil prix. Mais pourquoi cela s'est fait? C'est parce qu'il y a la complaisance dans la gestion des affaires publiques. Vous remarquerez comment ces gens-là opèrent. C'est que le ministre, l'ancien ministre a appelé des réseaux mafieux. Comment ils opèrent? Ils opèrent avec la police, avec le magistrat, avec les avocats et avec les administratifs, les fonctionnaires de l'État qui sont les conservateurs. Vous voyez? Et ils viennent, ils déclarent, ils désaffectent de manière irrégulière ces biens pour les vendre à vil prix. Et lorsqu'ils les vendent, eh bien, c'est les avocats et les magistrats qui interviennent. L'avocat va défendre, voilà, c'est mon client. Et le magistrat est là pour dire que non, il faut déguerpir les locataires qui est dedans pour que celui qui vient d'acheter occupe cette maison. Et comment ils le font? Vous trouverez que deux fois, ces fonctionnaires-là, ces conservateurs, falsifient les documents. Donc, il y a usage de faux. C'est en utilisant l'usage des faux, en donnant de faux certificats d'enregistrement et en faisant des mutations et des actes de désaffectation irréguliers qu'ils spolient et les patrimoines publics, le patrimoine de l'État.
Vous avez également suivi le ministre honoraire Laurent Simon Ikenge dire qu'il y a presque deux provinces qui n'ont plus, qui gardent encore les rares terrains et immeubles de l'État. C'est quand même scandaleux.
C'est scandaleux. Et je peux vous dire, prenez l'exemple d'ici à Kinshasa. En 1988, l'État avait plus ou moins 790 villas à travers la ville de Kinshasa ici. Et donc dans ces villas, dans 700 villas et dans ces villas vous avez les appartements aussi, à peu près 597 appartements qui appartenaient à l'État. Aujourd'hui à l'Erung, faites l'inventaire, vous serez scandalisés. Donc, il y a un problème des réseaux mafieux qui fonctionnent très bien avec la complicité des autorités compétentes, donc avec la complicité du gouvernement qui est supposé gérer ces patrimoines comme un patrimoine public, comme un bien de l'État qui appartient à tous les Congolais.
Merci, honorable Okundji. Maître Guilhem Aléré, vous êtes juriste. L'honorable Okundji a souligné que le patrimoine de l'État est inaliénable. L'émission est également pédagogique. À quel moment parle-t-on de spoliation?
Merci beaucoup Alain, toute la difficulté à ce niveau-là, parce que vous savez, dans notre pays, le problème c'est que nous avons des lois. La matière dont nous sommes en train de parler ici est régie par une loi en particulier, c'est celle dite foncière du 20 juillet 1973, telle que modifiée le 18 juillet 1980. Et c'est dans cette loi que vous pouvez aller constater effectivement que, à l'article 10, hein, que les biens de l'État qui sont affectés à un usage ou à un service public sont hors commerce. Hein, je crois que c'est ce dont l'honorable était en train de parler. Mais la même loi ajoute « tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés ». Vous voyez. Donc la loi, d'abord, pose le principe qui veut que les biens qui appartiennent au domaine public, c'est-à-dire qui appartiennent à un usage d'un service public ou de l'État, eh bien, ne peuvent pas être mis dans le commerce, c'est-à-dire ne peuvent pas être cédés à titre onéreux de surcroît. Alors, vous constaterez ensuite que la loi dit que, néanmoins, cela peut arriver que ces biens soient mis dans le commerce, mais à condition qu'ils soient préalablement régulièrement désaffectés. L'adverbe a toute sa valeur, régulièrement. Et tout le problème est à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça a ressorti dans les propos du ministre honoraire, ainsi que dans les propos de l'honorable ici. Le problème, c'est que, finalement, ceux qui spolient, nous allons revenir sur le concept spoliateur, ceux qui spolient bénéficient en quelque sorte de la complicité ou de l'aide de ceux qui sont aux affaires de l'État, qui finalement prennent des arrêtés, hein, n'est-ce pas, des désaffectations, mais dans des conditions plutôt douteuses. C'est souvent des arrêtés qui n'ont pas été discutés en Conseil des ministres, où l'on devrait notamment discuter de tous ces problèmes, savoir si réellement l'État a un intérêt quelconque à se délester d'une certaine partie de son patrimoine immobilier. On a parlé de certaines provinces, je crois, par exemple, dans ces provinces-là, il y avait des maisons pour les hauts cadres de l'administration publique, les magistrats, etc. Dans l'État, ils avaient tous des maisons de l'État, et aujourd'hui, l'État est buté à un problème tel que on affecte des magistrats, on affecte des hauts cadres de l'administration publique en province, et on ne sait pas les loger. Donc, il y a lieu de se poser, lorsque ces textes, ces arrêtés de désaffectation ont été pris à l'époque, dans les cas où il y en a, est-ce que ça a été discuté en Conseil des ministres? Est-ce que réellement, on a abouti à la conclusion que c'était nécessaire pour l'État de se délester, donc, de ses patrimoines immobiliers? Souvent, donc, comme ça a été dit, eh bien, la loi est là, mais elle est un peu trafiquée. C'est-à-dire, on prétend faire une pseudo-désaffectation, mais qui en réalité s'avère être une décision d'un petit groupe de gens qui désaffectent, sachant que les biens vont aller dans les patrimoines des amis, etc., et sans tenir compte réellement de l'intérêt de l'État. Et voilà pourquoi donc je dis que la question est assez complexe, dans la mesure où c'est la loi elle-même qui ouvre la brèche, dans la mesure où elle dit que lorsque les biens sont régulièrement désaffectés, ils peuvent rentrer dans le commerce. C'est-à-dire, ils entrent dans le domaine privé de l'État, et à ce moment-là, l'État les concède à des tiers. Mais par principe, les biens de l'État ne peuvent pas être concédés, parce que justement, ils sont inaliénables. Et voilà un peu la problématique.
Alors, Maître Maléré, parlons du spoliateur. L'État peut-il se spolier lui-même? Un privé peut-il spolier l'État, et l'inverse?
C'est ça, justement, la particularité du contexte congolais. En principe, l'État ne devrait pas se spolier, ne peut pas se spolier. La spoliation, ça veut dire quelqu'un qui prend un bien appartenant à autrui de manière irrégulière, sans titre ni droit. C'est-à-dire, ce serait le cas, par exemple, de quelqu'un qui viendrait s'installer sur un terrain qui est reconnu comme étant un terrain de l'État ou d'un service public. On l'a vu avec les concessions, par exemple, des grandes entreprises publiques comme l'ONATRA et consorts, où des gens venaient s'installer sur ces concessions là-bas. Là, on parlerait de spoliation dans la mesure où ces personnes, sachant que ces biens sont affectés à un usage public, viendraient s'y installer de manière irrégulière. Mais dans le cas présent, et je crois que je l'ai entendu dire par le ministre honoraire, il a dit qu'il y a même des gens qui viennent avec des arrêtés, des désaffectations des immeubles de l'État, signés par d'anciens ministres du portefeuille dans les temps, et sur base de ces arrêtés en bonne et due forme des ministres désaffectant les biens, les conservateurs des titres immobiliers considèrent que ces biens ont quitté le domaine public de l'État pour celui privé de l'État et donc en conséquence établissent des titres, des certificats d'enregistrement au profit des personnes pour lesquelles ces biens ont été désaffectés. Mais quand vous allez dans le dossier, vous constatez que la désaffectation prévoyait par exemple un prix, une contrepartie qui devait être payée par le bénéficiaire. Et souvent c'était des montants dérisoires. Des manières finalement à se demander quel était l'intérêt de l'État dans cette opération de désaffectation. À partir de là, on se rend donc compte que c'était en fait une manigance où les préposés de l'État, hein, les hauts commis de l'État, les ministres et consorts participent à l'opération d'expoliation de l'État. Alors, le terme devient impropre parce que c'est eux qui ont la compétence légale de désaffecter, mais ils désaffectent dans des conditions de fraude et de tricherie. Bon, est-ce qu'on parle d'expoliation à ce moment-là ou de détournement parce qu'ils participent aussi au détournement du patrimoine de l'État au profit d'amis, etc. Donc, c'est à ce niveau-là que... Le terme spoliation ici, nous le prenons dans un sens général. Mais stricto sensu, on ne peut pas se voler soi-même. Vous voyez.
Maître Maléré, il y a des cas qu'on a connus par exemple ici à Kinshasa où l'État a régulièrement désaffecté des terrains, mais quelques temps après, l'État revient, détruit les maisons et n'indemnise même pas ces personnes.
Là aussi c'est tout un problème par rapport à une autre question importante qui est celle du droit de propriété. Vous savez, dans toutes les nations au monde, lorsque le droit de propriété n'est pas bien protégé, n'est pas considéré comme un droit sacré, alors qu'il l'est affirmé souvent dans les textes, hein, comme dans la Constitution, le droit de propriété est sacré, lorsqu'une personne acquiert régulièrement une propriété sur un bien, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, venir l'en exproprier sans respecter les règles. Notamment, il y a des enquêtes à faire préalablement, il y a une indemnisation préalable à faire avant toute expropriation, etc. En ce moment-là, vous fragilisez vous-même l'État en tant qu'institution, et par rapport aux investisseurs, ils hésitent à venir dans un pays où le droit de propriété n'est pas protégé. Donc, il appartient donc à l'État d'agir en amont, c'est-à-dire avant de désaffecter, avant de concéder les biens qui appartenaient à l'État à des privés, eh bien l'État doit prendre toutes les précautions de sorte que demain ils ne viennent pas se dédire, parce qu'en se dédisant, ils fragilisent le droit de propriété.
Merci Maître Maléré. Laurent Simon Ikenge, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Goma en Nord Kivu pour vous.
Monsieur Moussouba Omangaha, c'est Goma. Les services de cadastre semblent changer déjà son rôle. Ils semblent se nier en un service de commerce, des terrains de l'État et même des privés. Les services de cadastre, c'est un service qui nécessite une réforme, mais aussi des sanctions exemplaires de la part de ses animateurs qui ne résistent même pas à vendre des avenirs qu'eux-mêmes ont tracés.
Réaction Laurent Simon Ikenge.
Merci, j'aimerais préciser les choses. Dans l'acquisition d'une parcelle, il intervient trois services. D'abord, le premier service, c'est l'urbanisme, qui doit soit établir le plan d'aménagement particulier du site. Deux, il intervient le ministre des Affaires foncières. Et le ministre des Affaires foncières a deux services. Le cadastre, pour attribuer des numéros cadastraux. Et les numéros sont les identités du terrain à travers la République. Et troisièmement, il y a le conservateur de titres immobiliers. C'est lui qui doit attribuer le bien au nom de la République. Donc, le cadastre, si il vend des maisons, je crois qu'il outrepasse ses compétences. Voilà ce que je voulais répondre à notre auditeur. De ce que j'aimerais préciser les choses, quand j'ai parlé de l'époque des années 84, j'ai dit que vous voyez quelqu'un s'amener avec une lettre d'attribution ou de cession. Et le ministre du portefeuille ne prend pas un arrêté de désaffectation. L'arrêté de désaffectation est pris par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Mais le conservateur, c'est lui qui délivre le papier. Et dans la plupart des maisons, vous voyez la lettre de cession à titre onéreux, je dis, c'est-à-dire la personne a payé à vil prix, et parfois à titre gratuit, c'est-à-dire il a plu au président fondateur de faire un don à un militant qu'il a estimé avoir rendu de loyaux services au inter partita. Et il y a des cas comme ça, vous avez la lettre de cession, mais il n'y a pas l'arrêté de désaffectation. Et c'est que le juriste a dit à propos, c'est correct. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas d'espèce ici? C'est que dans les gens qui spolient les maisons, ils le font bien sûr avec la complicité de service, mais ils ne le font pas, comme on a dit, dans la régularité, parce que c'est des marchés, on ne peut plus noir. C'est-à-dire, les autorités là opèrent en violation de la loi. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, un autre aspect, Laurent Simon Ikenge, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Maître Maléré, l'État qui a régulièrement désaffecté des sites et puis qui revient mais qui n'indemnise pas ses victimes malgré même certaines décisions judiciaires.
Non. Il y a ceci, l'État peut prendre, prendre une mesure pour au nom de l'intérêt général du pays désapproprier des privés. Et quand il est fait, il y a toujours une compensation. L'État paye. Mais ce que nous constatons ici, ce sont des individus qui viennent prendre chez l'État des maisons, des terrains, sans respect de la loi.
Merci.
Tel est le cas de l'hôpital là, ou le cas de l'école, de l'Institut Technique Agricole de Mombéré, que vous avez cité.
Merci Laurent Simon Ikenge. Rendons-nous au Sud Kivu, où les propriétaires des parcelles et des maisons qui appartenaient jadis à l'État et que le parquet général de Bukavu est en train de récupérer grognent. Ils ont initié un mémorandum adressé au gouverneur de province à qui ils demandent de contrecarrer la procédure de déguerpissement forcé initiée par le procureur général près la cour d'appel de Bukavu. Reportage Jean Kassami.
Ils étaient à peu près une centaine, ces propriétaires de parcelles et maisons de l'État vendues aux tierces par des services étatiques habilités. Ils ont sollicité l'appui des députés élus du Sud Kivu pour obtenir gain de cause. Ceux dont l'authenticité de leurs documents ne convainc pas la commission de vérification font l'objet de poursuites judiciaires. Certains sont arrêtés et libérés ensuite après versement d'une caution, témoignent-ils. Dans leur plaidoyer, ils suggèrent à l'autorité judiciaire de sursoir le déguerpissement forcé et ne s'en prendre qu'aux services de l'État qui ont vendu et délivré des titres de propriété aux tierces personnes. Le procureur général près la cour d'appel de Bukavu, Pascal Mukonkole, déclare qu'il a le soutien du chef de l'État dans cette opération. Toutefois, les concernés continuent toujours à réclamer un arrêté et ou un décret qui ordonne la justice à récupérer les maisons construites dans les parcelles du patrimoine privé de l'État congolais. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Merci Jean Kassami. Au même moment, à Lubumbashi, au Katanga, l'opération de contrôle des maisons de l'État commencée il y a 3 semaines par la division provinciale de l'habitat se poursuit sans désemparer. Objectif, connaître non seulement pas le nombre des maisons qui sont sous la gestion de la division de l'habitat, mais aussi le nombre de celles vendues ou spoliées. Honorable Emery Okunji, vous venez de suivre d'autres illustrations là. Faut-il finalement reformer la loi foncière congolaise?
Oui, une loi peut être réformée. Il n'y a aucun péché si l'on réforme la loi. Mais Alain, ici, nous avons un problème de l'application ou de l'applicabilité de ces lois-là. Il faut que nous puissions avoir dans notre pays des hommes, des femmes capables de respecter leurs propres lois, de les appliquer. Sans cela, on peut beau réformer les lois de la République, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, les lois que nous avons ne sont pas mauvaises en soi, mais il se pose un problème d'application sur terrain, de respect de nos lois. C'est ce qui entraîne les conséquences que nous déplorons aujourd'hui. Le maître l'a dit, maître Maléré l'a bien souligné. En RDC, il y a des lois en vigueur qui prévoient l'acquisition par des particuliers des biens immeubles appartenant à l'État, mais sous une certaine condition, c'est-à-dire lorsque vous prenez cette loi à la lecture de l'article 210, 212 de la dite loi foncière, énonce que les immeubles de l'État peuvent faire l'objet d'une cession s'ils sont régulièrement désaffectés. Mais alors, qu'est-ce que nous remarquons sur le terrain? On trouve des raccourcis pour contourner la désaffection régulière. Et on est en train de spolier les patrimoines de l'État, les patrimoines publics. Donc, réformer nos lois, c'est bien. Mais le plus important aujourd'hui, ce ne sont pas des lois qui sont mauvaises en soi, mais nous n'avons pas des femmes capables d'appliquer correctement ces lois, de respecter scrupuleusement ces lois-là. C'est là tout le problème. Donc, c'est un problème d'une culture de respect de loi. Et donc, nous devons, tout le monde, tous les acteurs, la société civile y compris, doit jouer un rôle dans la vulgarisation, dans la sensibilisation, dans l'éducation citoyenne, pour que nous puissions apprendre à respecter les normes, les règles et les repères qui régissent la République démocratique du Congo.
Et donc, parmi les solutions, c'est mettre fin à l'impunité.
Mettre fin à l'impunité. Ça, il faut absolument qu'on mette fin à l'impunité. Nous attendons voir quelle sera la sanction de ces policiers qui n'ont pas obéi à un ministre de la République en fonction. Attendons voir ce qui sera comme sanction.
Maître Maléré, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale pour vous.
Samuel Asayaka, depuis Kisangani en province orientale, c'est l'inefficacité de notre administration qui fait que l'État puisse laisser ses immobiliers de la sorte. Moi, je donne toujours l'exemple de ma ville. On voit déjà dans les cimetières, par exemple, le cimetière de la 10e avenue Tiopo, il y a déjà qui construisent des maisons. L'État a fait de regarder, les bourgmestres voient ça, les maires de la ville voient ça, aucune réaction. Jusqu'à présent, on a enterré la dernière personne, ça n'était même pas plus de 50 ans. Moins de 10 ans, les gens habitaient déjà le cimetière de la 10e avenue Tiop. Donc l'État là est en train d'observer, il ne sait rien.
Réaction Maître Maléré.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur de Kisangani. Effectivement, il y a un problème des responsabilités. L'honorable l'a souligné tout à l'heure, le ministre honoraire aussi, des responsabilités des personnes qui sont aux affaires, qui sont censées gérer pour le compte de l'État. Parce que l'État, c'est une notion abstraite. Elle agit à travers des individus, des personnes physiques. Ce sont ces personnes-là qui doivent, n'est-ce pas, engager leurs responsabilités en termes de mégestion du patrimoine de l'État qui leur a été confié. Bon, et lorsque ces personnes-là, ça peut être une responsabilité pour des actes positifs ou pour une attitude passive. Par exemple, un bourgmestre ou un gouverneur d'une province qui constate que la population est en train de spolier, de s'installer sur un cimetière qui est un domaine public de l'État, qui n'a pas encore été désaffecté, eh bien, ces autorités, n'est-ce pas, administratives, politico-administratives, doivent agir déjà à leur niveau, interdire, déguerpir tous ces gens, et ne pas attendre que les gens construisent en dur, s'installent définitivement sur les lieux, pour déplorer des problèmes de santé publique et autres. Et donc, je reviens à ce que vous avez dit, Alain, qui est très important, sur lequel on n'a pas vraiment insisté dans cette émission, c'est la question de la sanction. Si l'on sanctionnait effectivement toutes les personnes qui engagent leurs responsabilités dans la spoliation, dans la désaffectation irrégulière des biens du domaine public de l'État, dans la vente à vil prix des biens de l'État, eh bien, ça servirait d'exemple et la sanction devrait commencer à partir du sommet, c'est-à-dire même au niveau ministériel. Si un ministre, il s'avère qu'un ministre a désaffecté abusivement des patrimoines immobiliers de l'État et l'a cédé à des tiers à vil prix, à désaffecté sans même s'en référer au Conseil des ministres pour que l'on sache si réellement il était de l'intérêt de l'État, que l'État se déleste de ses biens, eh bien un tel ministre doit être non seulement démis de ses fonctions, mais poursuivi pour complicité de spoliation des biens de l'État. Et cette sanction-là doit s'appliquer à tous les niveaux, jusqu'au niveau des conservateurs et autres fonctionnaires de l'État qui ont favorisé cette situation. Et alors, je disais aussi tout à l'heure que pour ceux de ces responsables qui sont aussi passifs face à des violations de la loi qui sont en train de s'installer, eh bien, on doit aussi prévoir une sanction. Et de cette sorte-là, on verra que le phénomène va reculer. Mais lorsque l'État assistent avec complaisance à la situation, laissent les gens s'installer, laissent la chose se faire, la situation s'enraciner, et commencer à agir par la brutalité, l'État se retrouve lui-même en situation de violation de la loi. Parce que, je voulais dire un mot sur les déguerpissements, effectivement, les déguerpissements, ceux qui sont en train de protester et d'être déguerpis sans jugement, ont raison aujourd'hui. En principe, un déguerpissement ne peut se concevoir qu'après qu'il y ait eu un jugement, c'est-à-dire que la justice ait statué sur les cas et que la justice ait constaté effectivement que la personne occupe sans titre ni droit valable le bien de l'État. Et à ce moment-là, sur base de ces jugements devenus définitifs, eh bien l'État peut maintenant agir et procéder au déguerpissement. Mais du jour au lendemain comme ça, laisser faire la spoliation et ensuite venir soi-même d'une manière irrégulière déguerpir ces gens, on ajoute des irrégularités à d'autres et ça donne un désordre incroyable dans une république.
Voilà, je voudrais juste signaler qu'il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Laurent Simon Ikenge, en guise de conclusion, déjà, ne faudrait-il pas que l'État favorise une politique d'urbanisation pour permettre à chaque citoyen d'avoir une propriété au lieu de chercher à amasser des propriétés mal acquises, par exemple, en guise de conclusion?
Oui, ce que vous avez demandé est possible. C'est qu'on doit, parce que les villes qui ont été construites vers les années de la colonisation sont dépassées, on doit construire de nouvelles villes ou étendre les villes qui existent. Ça, c'est vrai. Et là, les gens peuvent acheter des maisons pour leur progéniture. L'État doit rentrer dans ses droits. S'il s'avère qu'il y a eu spoliation, qu'il y a eu détournement des biens de l'État, il faut engager une procédure régulière, comme l'avait dit le juriste, pour que l'État rentre dans ses droits, récupère ses biens qu'on lui a volés. Je crois que c'est de la justice qu'il s'agit. Et pour terminer, nous avons des lois. Et on ne peut pas avoir des lois s'il n'y a pas de sanctions. Je crois qu'il faut mettre fin à l'impunité.
Merci.
Il faut punir les auteurs, les complices, et même le bénéficiaire de ces actes de corruption, détournement, spoliation, pour que les Merci. Générations à venir puissent avoir la culture de responsabilité.
Merci Laurent Simon Ikenge. Honorable Emery Okundji, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission pour vous?
Merci Alain. Si l'État ne prend les mesures qui s'imposent aujourd'hui, il risque de perdre la quasi-totalité de son patrimoine. Donc, il faudrait, un, mettre fin à l'impunité. Deux, l'État doit récupérer les immeubles qui ont été acquis à l'absence d'un acte de désaffectation régulier. Trois, lorsqu'on a, il récupère tous ces immeubles, il doit les lister et les publier au journal officiel. Et quatre, l'État doit faire aussi l'identification des attributaires, des locataires qui sont dans les appartements, dans des villas de l'État pour la bonne gestion de ces appartements-là. Et le mot-clé aujourd'hui, c'est mettre fin à l'impunité. Et on doit cesser de détourner les biens de l'État, car le patrimoine public est un patrimoine inaliénable. Merci et imprescriptible.
Maître Maléré, pour toutes ces victimes qui sont en train de nous suivre en ce moment et qui n'ont toujours pas été indemnisées.
Oui, je pense que moi je ne peux recommander aux gens que le recours à la justice. Vous savez, la justice ou les règlements des comptes privés amènent un État dans la dérive. Eh bien, tous ceux qui estiment qu'ils sont aujourd'hui victimes d'injustice, qu'ils détiennent des titres réguliers sur les parcelles ou les biens qu'ils occupent, eh bien, ils peuvent s'en référer à justice, saisir les cours des tribunaux afin d'obtenir des titres qu'ils peuvent exécuter même contre l'État. Et l'inverse, c'est vrai, comme a dit le ministre honoraire tout à l'heure, l'État aussi, dans la mesure où il s'estime spolié, eh bien, il peut engager des actions au niveau de sa justice. Et enfin, notre Parlement, nous attendons de lui qu'il joue son rôle d'interpellation des acteurs publics, surtout ceux de l'exécutif, pour mettre fin à ce phénomène qui est en train d'appauvrir notre pays.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention et notez que l'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.